Flavie à Robertine. 2 mai. Je t'ai quitté hier un peu brusquement. J'étais en retard pour m'habiller et j'étais attendue au Cassine. Je vais reprendre mon récit où je l'ai laissé. Mais j'abrégerai les conversations, car tu peux bien te représenter, d'après le caractère raisonnable et tolérant de Lady Rosemonde, qu'elle me fait tous les sermons aimables que tu me ferais à sa place et que tu ne m'épargnes pas dans tes lettres. Ce qu'il y a de certain, c'est que ni elle ni toi ne me ferez épouser un savant, un être qui méprise sa femme, ignorante, et ne la prend pas plus au sérieux qu'un petit enfant, qui lui laisse tout le soin, toute la peine, tout l'ennui et tous les dangers de la responsabilité domestique. C'est ainsi que mon père me traite, et j'ai gagné de savoir tenir un salon. Mais cela ne m'amuse pas toujours et prend tant de temps qu'il m'en reste à peine assez pour m'habiller et réfléchir. Comment aurais-je celui d'élever des marmots s'il me fallait continuer à être à la fois l'homme et la femme de la maison? Non, non. Tu vas voir comme je suis raisonnable. Ce qu'il me faut à moi, c'est bien moins un mariage d'inclination qu'un mariage de convenance. C'est un mari qui soit réellement un homme du grand monde, un haut fonctionnaire, tour à tour ambassadeur et ministre, et dont la position est beaucoup à profiter de ma manière d'être, à savoir mon usage, mon esprit de conversation, babil si tu veux, mais babil précieux à l'occasion. Mes toilettes, vanité qui jette un grand prestige sur la beauté d'une femme influente, mes petites séductions puériles, qui sont un grand moyen de crédit, enfin mon aptitude à me créer des relations, et tous ces défauts qui, dans un certain milieu, sont des qualités essentielles. Tu verras que j'ai très bien fait de laisser Malcolm à ses insectes et à sa mésange, qu'il épousera, j'en suis certaine maintenant, car il ne hait pas non plus les petits oiseaux, et j'ai découvert à de certains envois mystérieux qu'il y avait entre mon père et lui échange de curiosités intéressantes. Œufs de pie et œufs d'insectes, cadavres des tourneaux et cadavres de hannetons. Les petits cadavres entretiennent l'amitié. Mais j'oublie que tu attends la suite de mon histoire. Voici. Je quittai Lady Rosemonde sans m'être laissé persuader qu'un naturaliste fût un homme, et dès le lendemain, j'avais complètement oublié l'existence de M. Hubert ou Robert, car je n'avais pas même retenu son nom, quand je vis mon père dans une grande perplexité. Croyant que je voulais absolument partir, il ne pouvait plus me cacher un notable accroissement dans sa collection, et il était dans une terrible disette de caisses propres à des emballages. J'arrivai juste à point pour le rassurer, et pour lui dire que je n'avais plus de raison pour lui hâter de partir. Je vis que je lui rendais la vie. « Puisque vous êtes gentil, me dit-il, je vais vous faire une proposition que je vous supplie de ne pas prendre de travers. Vous avez vu ici un homme un peu bizarre, que je vous ai donné pour un marchand colporteur, et qui n'est autre qu'un savant de premier ordre, un homme de génie, encore sans nom et sans fortune, ce qui ne prouve rien contre lui, bien au contraire. Je serais très heureux de lui procurer quelques ressources sans blesser sa délicatesse, qui est excessive, et en même temps j'aurais beaucoup plus d'heures à vous donner si j'étais aidée dans mon rangement par un homme qui possède à fond toutes les branches de l'histoire naturelle. J'ai donc pensé à confier mon classement et mon catalogue à M. Villemer, c'est son nom. Un drôle de corps, j'en conviens. Soit caractère, soit ignorance des usages, il est d'une franchise et d'un sans-façon inouï. Mais comme il a, en somme, de l'esprit et des intentions excellentes en toutes choses, une grande pureté de mœurs et le vrai sentiment des convenances morales, je ne crains pas qu'il vous offense jamais, et je suis même certain qu'il vous amusera et vous intéressera quelquefois. « Ah ciel, m'écriai-je, mon cher père, vous voulez me convertir à l'histoire naturelle ?»« Point, point, reprit mon père, vous ne l'écouterez qu'autant qu'il vous plaira, et si nous vous ennuyons en causant ensemble, vous nous ferez taire. Vous savez comme je suis obéissant. D'ailleurs, vous ne le verrez pas du tout, lui, si sa figure vous déplaît. Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas le prendre pour un brigand si vous l'apercevez la nuit faire la chasse aux noctuelles sur certaines fleurs que ces insectes préfèrent et qui se trouvent dans le jardin. D'autres fois, vous le verrez égrener des cailloux ou fouiller les eaux dormantes. Tout l'intéresse et le passionne, excepté les belles dames et les beaux chiffons. Vous n'avez donc pas à craindre qu'il vous importune jamais de ses discours ou seulement de ses regards. Il est presque certain qu'il ne vous verra pas si vous ne lui adressez pas la parole. Je vis que mon pauvre papa mourait d'envie d'avoir son savon à domicile, et comme en fin de compte, je n'avais plus aucun motif de dépit contre ce bonhomme, je l'autorisais à lui offrir la table, le logement et tel traitement qui lui plairait de fixer. 2 heures après, le savon était installé chez nous, tant mon père grillait de l'avoir sous la main à tout moment. Je le vis arriver dans la cour avec sa mule et ses ballots, et il ne fut pas question de me le présenter. Il travailla jusqu'au dîner avec mon père. Je m'attendais à le voir à ce moment-là, et j'avais fait mettre son couvert. Mais papa me dit qu'il ne désirait pas du tout manger avec nous, et qu'on le ferait servir dans sa chambre. J'aurais dû accepter l'arrangement. Mais d'une part mon bon cœur, de l'autre une certaine envie de m'amuser du personnage, me firent insister. Mon père alla le chercher et revint sans lui. Il avait refusé, prétendant qu'il ne savait que dire à une belle dame, et que d'ailleurs un beau dîner, comme devait être le nôtre, prenait trop de temps. Il se savait ennuyeux, mal appris, il croyait s'être aperçu de mon antipathie, etc. Je fus piqué de ce refus. Et prenant le bras de mon père, je le priai de me conduire en personne auprès de son ours. Il fut très intimidé de ma visite et balbutia des excuses. Il n'avait pas faim, il avait mangé. Il promit cependant de venir prendre le café avec nous si nous voulions bien le faire avertir. Je n'y manquai pas, et quand il arriva, très hésitant, je le pris par le bras en riant et le fis asseoir à table entre mon père et moi. Mon pauvre père était si reconnaissant qu'il ne savait que faire et que dire pour me remercier. Dans tout ceci, je fus très imprudente, je l'avoue. Mais pouvais-je me méfier d'un homme qui m'était présenté par mon père comme inaccessible à toute séduction? Je fus donc charmante avec lui, pleine de prévenance, et si polie qu'il fut bien forcé de l'être lui-même. Ce qui, du reste, me parut lui coûter fort peu, du moment qu'il reconnut que je n'étais pas folle, comme il se l'était imaginé. Son embarras ne fut pas de longue durée. C'était de la méfiance plutôt que de la timidité. Quand il vit que je ne me moquais pas de lui, il prit même une certaine aisance qui dénote une distinction naturelle. Je le regardais avec étonnement se transformer de minute en minute. J'étais frappée aussi du changement de sa personne et un peu touchée du soin qu'il avait pris de se faire raser et coiffer par le valet de chambre de mon père, avant de se présenter devant moi. Débarrassé de sa longue barbe, il était fort propre, tout en noir, avec des habits trop larges et hors de mode, qui en somme lui vont probablement mieux que s'il s'était mis dans les mains d'un tailleur civilisé. Avec cette mise qui n'est pas de son âge, ses cheveux encore trop longs mais fort beaux, et l'expression de sa physionomie, qui a 30 ans de plus que ses traits, il a l'air d'un jeune homme qui a pris par mégarde les habits de son grand-père, médecin ou magistrat sous le directoire. Ou plutôt, il a l'air d'un portrait de ce temps-là, qui s'est détaché de la muraille, car il n'a pas d'âge. On ne sait pas l'âge qu'il a. C'est un jeune homme sans jeunesse, ou un homme mûr dont la jeunesse a été calme comme l'enfance. Il y a en lui un mélange de gravité et d'ingénuité qui n'est pas sans grâce. Je n'ai jamais vu un œil si pur et si tranquille. La fatigue et le hâle n'ont pas eu de prise sur sa peau fine et d'une blancheur jaune uniforme. Enfin, chose rare et à laquelle s'exposent peu de nos beaux, il a pu sacrifier sa barbe et y gagner. Le café se prolongea. Nous étions sur une magnifique terrasse d'où l'on domine un site très vaste. Le soleil se couchait derrière une masse d'arbres en fleurs qui en adoucissait l'éclat, comme eût fait un rideau de mousseline blanc et rose. Le jardin sentait comme un bouquet que l'on aurait eu à la ceinture. Tu sais, je ne suis pas pour la description. Pourtant, j'aime la nature quand elle est parée et parfumée, et le printemps me plaît parce qu'il a un air de fête et de gala. Comme je regardais, en me livrant à une velléité de métaphore intérieure, la sérénité du ciel reflétée en quelque sorte sur la figure de cet homme qui m'avait été odieux la veille, et qui maintenant se présentait à moi comme le plus inoffensif des êtres, il me regarda à son tour, et l'on eût dit qu'il me voyait pour la première fois. Il se fit dans ses yeux je ne sais quelle clarté riante, et il dit sans le moindre embarras à mon père « Eh bien, monsieur de Kerr, je vous fais mon compliment de votre fille. Je ne la croyais pas si belle que cela. Elle vous ressemble, et j'ai dans l'idée maintenant qu'elle est aussi bonne que vous. » Je suis fort habituée aux compliments, et tous me font rire. Je ne sais pourquoi, tout en riant de celui-là avec mon père, je sentis que je rougissais. C'est toujours un certain plaisir intérieur, vainement combattu, qui fait rougir les jeunes filles. Moi, vieille fille, je ne rougis plus. J'aime la louange que je devine, et je ne m'en trouble pas. D'où vient que celle-ci, toute rustique et à bout portant, me causa quelque émotion? Je ne sais pas. Peut-être parce que c'est la première louange bien sincère que j'ai entendue. Je ne sais pas non plus pourquoi je l'en remerciais comme d'une preuve de sympathie. Je fus entraînée involontairement à me confier à l'affection de cet être qui me faisait l'effet de n'avoir ni âge ni sexe. Un paysan, un prêtre, un savant ne se présentent pas à mon esprit comme des hommes dont j'ai à me garantir et à m'occuper. J'avais tort. Mon père s'étant levé de table le premier, je restais là par nonchalance, et je pensais à la robe que je mettrais le lendemain pour aller à Florence. Quand je retrouvai les yeux de notre convive, attachés sur moi avec une persistance inquiétante. Je pensais ne devoir pas me soustraire trop vite à son examen. Si c'est un sauvage qui se livre à toutes ses impressions, pensais-je, j'aime mieux le savoir tout de suite, afin de le rembarrer une bonne fois, ou de l'exclure de mon intimité dès le principe. Je le regardai à mon tour, sans lui faire baisser les yeux. Je pris sur moi de lui demander ce qu'il étudiait dans ma figure. Il m'entendit à demi, se frotta les mains sans rien dire. Puis il se leva assez brusquement, comme s'il eût été pris d'un grand trouble, et me demanda la permission de se retirer, ce qu'il fit sans attendre ma réponse. Je me sentis mal à l'aise de ce qui venait de se passer, et incertaine de ce que j'avais à faire, pour me préserver des pensées d'un être si spontané et si ingénu, sans avoir l'air de m'en être aperçu, et sans contrarier mon père. Devais-je dire à ce dernier que son savant ne me paraissait pas aussi indifférent et aussi incapable de me voir qu'il l'avait avancé? Mon père est quelquefois si railleur, quand il me suppose présomptueuse, que je n'osais pas. Le lendemain matin, je vis apparaître le savant à déjeuner. Cette fois, il venait sans embarras et avec le même regard clair et direct qui m'avait semblé au moins bizarre la veille. Je me bornai à le saluer et à être poli. Je ne lui adressai pas la parole une seule fois pendant le repas, et je ne levai pas une seule fois les yeux sur lui. Je reconnus alors qu'il n'était pas stupide et comprenait fort bien sa sottise, car il ne fit rien pour me tirer de mon mutisme et de ma froideur. Le dîner se passa de même. Il causa avec mon père de toute autre chose que de science. Sans en avoir l'air, je l'écoutais pour me former une opinion définitive sur son compte. Je ne fus pas longue à reconnaître que c'était là un homme du plus grand mérite. Il y a de l'élévation dans toutes ses idées, et il semble aussi au courant de la politique, de la littérature et des arts, enfin de tout ce qui constitue l'histoire des hommes, qu'il peut l'être de tout ce qui concerne l'histoire des animaux et des choses inanimées. Il s'exprime avec une clarté qu'on peut dire éblouissante et avec une simplicité du meilleur goût. Toutes ces idées m'ont paru neuves, et même j'ai remarqué que, quand il lui venait une pointe de vraie gaieté, il avait beaucoup d'esprit. De l'esprit de bon aloi, qui n'est pas dans les mots, mais dans la tournure originale de sa pensée. Comme mon silence devenait affecté, j'y renonçai le jour suivant. Que m'importait après tout que ce sage de l'Antiquité devint amoureux de moi? C'est son affaire, il me semble. Et s'il s'oublie jusqu'à me le faire trop comprendre, il sera toujours temps de le remettre à sa place. Il a trop d'esprit pour ne pas entendre à demi-mot, qui ne peut être pour moi que ce qu'il est, un savant. C'est tout dire. Je me remis donc à causer comme si de rien n'était. Mon père m'en félicita. Vous ne nous avez dit mot hier, ma chère fille. Étiez-vous souffrante? Je n'osais pas dire que non. Je l'aurais dû pourtant. En mettant mon mutisme sur le compte d'une migraine, je détruisais tout le bon effet que j'avais pu en obtenir. « À la bonne heure, » reprit mon père. « Je craignais que vous ne fussiez mécontente de nous. Il me semble pourtant bien que nous nous sommes abstenus de dire un mot grec ou latin, n'est-ce pas, Emilius ?»« Emilius, » repris-je en riant, « en voilà pourtant du latin. Pourquoi ne pas dire Monsieur Villemer, Émile, tout bonnement, si c'est là son prénom ? Est-ce qu'il est venu au monde tout savant, avec cette terminaison en us qui caractérise les animaux de mon espèce ?» dit le savant en riant aussi, et d'assez bonne grâce. Il est certain que cette manie que nous avons de changer la rime des noms propres peut donner lieu à d'étranges méprises. Je crus comprendre qu'il savait enfin mon nom de baptême, et qu'il riait en lui-même du quiproquo grossier dans lequel je m'étais empêtré pendant quelques jours. Je fus honteuse que cela se fût découvert. J'espérais qu'il aurait tout oublié, et je vis que le personnage n'était pas si distrait qu'il s'en pique. Mon père l'est bien réellement, lui, et il ne fit aucune attention à l'explication qui résulta des paroles de son Émilius. J'essayai de dire à celui-ci que j'étais un peu toquée et que j'avais voulu me divertir de son air préoccupé, avant de savoir à quel homme sérieux et recommandable j'avais affaire. « Ne vous défendez pas d'une méprise ingénue et plaisante, » répondit-il avec une grande douceur. « Vous avez certainement trouvé une note que j'ai vainement cherchée et que Malcolm m'avait remise en partant. Je ne me rappelle pas ce qui était écrit dessus, bien au juste. J'ai suivi ses instructions orales quant à cette pauvre petite Flavia, à laquelle il tenait d'une manière extraordinaire et qu'il me suppliait, puisque je m'arrêtais dans les environs de sa demeure et que je lui destinais cet individu, de ne pas laisser éclore au hasard.